Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Ça va bien, Bouffon ?
On bouffe ?
Tu bouffes, tu bouffes.
Aujourd'hui, dans Bouffon, je reçois deux personnes qui m'ont énormément influencé. Alors, vous devez vous dire que je reçois un chef triple étoilé ou Jamie Oliver. Mais non, mes deux invités sont à la fois mes influences et aussi des potes. Pharrell Haro de Club Sandwich et Alexis Henouz, que vous connaissez sûrement par le nom de sa chaîne, French Guy Cooking, sont venus compléter la série sur la cuisine filmée en venant nous parler de cuisine sur YouTube. Et ils m'ont tous les deux influencé à leur manière, de par leur parcours et les discussions qu'on a pu avoir ensemble. Je me souviens d'avoir vu Pharrell faire à manger chez lui pour des inconnus dans une vidéo YouTube alors que je ne le connaissais pas. Et je m'étais dit, ah ouais, il est pas chef, et il parle de bouffe et il fait de la bouffe, c'est donc quelque part possible. Ou je me souviens par exemple des discussions sur la vision décomplexée de la cuisine d'Alexis et du travail un peu hybride de pas vraiment chef, pas vraiment cuisinier, pas vraiment restaurateur, pas vraiment influenceur non plus. Et finalement ce truc qu'on fait un peu tous les trois à notre manière, Alexis sur sa chaîne, Pharrell sur Club Sandwich et moi dans Bouffon. C'était donc un plaisir de passer du temps avec eux, de leur donner la parole ici pour cet épisode qui, je ne vous le cache pas, était très important pour moi. Pharrell, en deuxième partie, nous racontera comment il a appris sur YouTube et pourquoi c'est probablement la meilleure école.
Je suis arrivé vraiment dans la cuisine comme ça, par l'arrière, tard, et avec juste l'envie de découvrir des trucs. Et puis, à bout d'un moment, tu commences à manger des choses. Et là, tu fais, ouais, c'est dingue. Et du coup, tu vas sur YouTube et tu dis, bon, alors ce truc que j'ai mangé, maintenant, je veux le refaire.
Mais d'abord, Alexis, le French Guy Cooking, un de mes YouTubers food préférés, qui cumule près de 700 000 abonnés. Il a démarré sans rien, avant de rejoindre le Footube de Jamie Oliver, le chef star britannique. Et puis récemment, il a pris son envol. Mais tout ça, il le racontera mieux que moi.
Moi, en fait, j'ai accroché, pas vraiment avec la cuisine à la base, mais plutôt avec la bouffe. Je pense que les événements un petit peu qui ont créé la passion que j'ai aujourd'hui pour la bouffe et la cuisine, ça vient de la découverte de la bouffe à l'étranger. Je voyageais beaucoup avec mes parents quand j'étais petit. Toutes ces bouffes, tu vois, que tu connais pas, ça aiguise énormément la curiosité, ça appelle un appétit pour, tu vois, plein de trucs exotiques. Pas forcément exotiques dans le sens, tu vois, des mangues et des papayes, mais en tout cas des choses que je connaissais pas. Et ça m'a vraiment développé un appétit je sais pas, par exemple, des olives, tu vois, en Grèce. J'ai mangé je me rappelle de trucs particuliers, hein, du jambon en Espagne, tu vois, qui reste aujourd'hui mon préféré, clairement. Mais je pense que la cuisine, chez moi, elle a été forgée par la bouffe, et la bouffe, elle a été forgée par les voyages.
Ok. Et quand est-ce que, du coup, t'as le déclic de dire, ok, j'aime la bouffe, mais maintenant j'aime la cuisine, en fait.
En fait, j'étais pas un grand fan de cuisine à la base. C'est venu assez tard, hein, je dirais peut-être vers 25 ans, quelque chose comme ça. Avant, je faisais, si tu veux, un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire je mangeais rien, j'allais tout le temps dehors. Et puis, de manière assez pratique, j'ai emménagé avec ma copine, tu vois, à peu près, qui est devenue ma femme, il y a 7 ans, quelque chose comme ça, un peu plus. Et en gros, un peu plus, peut-être 8 ans. Et en gros, lorsqu'on a emménagé tous les deux, on s'est dit, de manière assez pragmatique, on va diviser les tâches ménagères en deux. Et là, elle a récupéré une partie des tâches ménagères. Et moi, dans la partie que j'ai récupérée, il y avait la cuisine et les courses aussi. Donc du coup, je me suis mis à cuisiner en fait tous les jours. Avant, je faisais ça de manière très occasionnelle, tu vois, le week-end pour des potes ou pour ma famille, comme ça. Et puis, je pense que la passion de la cuisine, elle est vraiment venue lorsque j'ai commencé à cuisiner tous les jours. Ouais. Lorsque j'avais l'obligation de cuisiner tous les jours. Je pense que là, il y a une différence qui se fait, qui est assez brutale, dans le sens où... Tu comprends ce que ça veut dire de cuisiner, je trouve, quand t'es obligé. J'imagine que c'est encore très différent de ce que les chefs font dans les restaurants. Mais lorsque tu dois cuisiner, tu vois, chaque jour, chaque midi, chaque soir, lorsque tu dois gérer un budget pour faire des courses, puis en plus on est deux, et puis maintenant tu vois, on est trois, alors il y a toute une démarche qui est complètement différente du kiff que tu peux avoir le week-end. Et je pense que la passion de la cuisine, elle est venue par la pratique.
Et à ce moment-là, t'apprends comment à faire la cuisine ?
YouTube, ouais. J'arrive sur YouTube et j'absorbe YouTube et j'apprends à faire la cuisine sur YouTube et je gagne ma vie sur YouTube. Je suis un enfant de YouTube, quoi. Enfin.
Et à ce moment-là, comment tu découvres déjà la cuisine sur YouTube ? Je parle vraiment de ce moment-là où tu démarres où tu commences à faire la cuisine. Et qu'est-ce que tu trouves où tu te dis, ah ouais, c'est vachement mieux qu'un livre, c'est vachement mieux qu'un cours de cuisine ?
Moi, je viens du web à la base. Donc, j'ai toujours travaillé dans le web. J'avais une entreprise à Paris, tu vois, une entreprise marketing, comme il y en a plein, en fait. Et donc, je travaillais avec plein de clients différents. J'ai travaillé pour des clients pour qui je faisais, tu vois, du community management. On leur lançait des sites, on leur lançait des stratégies, on faisait de la publicité en ligne. Et donc, du coup, ça m'a permis de découvrir tous les réseaux sociaux, un par un, toutes les plateformes sociales, toutes les plateformes médias sur Internet. J'ai découvert comme ça, tu vois, au fil de l'eau, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Et lorsque j'ai découvert YouTube, je me suis dit, c'est incroyable que cette plateforme existe, dans le sens où moi, qui ai toujours été passionné par l'image et par le web, il y a une plateforme sur Internet qui m'autorise à créer du contenu, à avoir une audience, même dans des secteurs de niche absolue, et peut-être à en vivre. Je me suis dit, la promesse, elle est trop belle. Donc, à ce moment-là, j'ai arrêté mon activité, tu vois, précédente. Et j'ai démarré sur YouTube, donc avec 0 abonné, enfin, c'est avec 3 abonnés, quoi. Mon père, ma mère, et puis ma sœur.
Pas ta copine.
si, je pense 4 abonnés. Ah, j'espère qu'elle écoute pas. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et j'ai appris, donc, comme je te disais, sur YouTube au fur et à mesure. C'est vrai que je trouve que sur YouTube, il y a une liberté en termes de contenu. Tous les gens qui étaient familiers avec le contenu qu'on peut voir à la télévision, principalement le contenu qu'on peut voir à la télévision en termes de cuisine, c'est très formaté. La télé, c'est hyper formaté. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas vraiment une critique, c'est plutôt un constat. Et je trouve que YouTube est venu apporter une dose d'amateurisme, mais pas d'un point de vue négatif, d'un point de vue très positif. Tous ces amateurs avaient une manière de voir les choses. Il y en a qui faisaient des voyages d'une manière... des voyages culinaires que j'avais jamais vus avant, des approches complètement geeks sur des domaines, tu vois, de ramen ou de cuisine chinoise hyper particulière. Il y en a qui étaient chez eux et qui faisaient de la cuisine dans des domaines, tu vois, comme la pâtisserie geek, tu vois. Ouais. Genre où, tu vois, Rosanna Panzino qui fait des espèces de cupcakes avec des emojis ou des trucs qui ont un rapport avec les jeux vidéo. Enfin, je veux dire, le secteur est quand même hyper pointu d'une certaine manière. Et du coup, ça ouvre, je trouve, des perspectives qui sont hyper intéressantes. On a l'impression qu'on peut tout faire, en fait. Que grâce à la globalisation, grâce au caractère très international de YouTube, tu peux créer une audience, même si elle est minime dans chaque pays, tu peux créer une audience, même sur un thème très précis. Ça m'a énormément plu.
Et en tant que spectateur, quand tu apprends la cuisine aussi, t'aimes bien quoi le côté visuel, le fait qu'il y a des nouvelles recettes que tu n'as pas forcément vues, le fait que tu peux un peu piocher où tu veux, en fait, ce n'est pas un livre qui va te cantonner à une cuisine en particulier.
Ouais, j'aime beaucoup. J'aime déjà la facilité d'une vidéo par rapport à une recette. C'est quand même beaucoup plus simple de s'asseoir, de rien faire, de boire du thé et tu vois, de prendre les informations qui entrent plutôt que de devoir aller les chercher et les lire dans un livre. En plus, tu as le résultat immédiat. Si ça rate, c'est assez clair dans une vidéo. Beaucoup plus dur à cacher dans une vidéo. En plus, maintenant, je fais des vidéos, donc je connais bien le problème. Beaucoup plus dur à le cacher dans une vidéo que dans une photographie ou encore pire, dans une recette écrite où il n'y a pas de photo. Jamais compris, tu sais pourquoi. Ouais. Il y a des livres de recettes. Enfin, d'ailleurs... j'ai un mauvais exemple. J'imagine que peut-être que dans ton livre aussi.
Mais il n'y a que des photos.
Il n'y a que des photos, ouais. Sur chaque recette.
Ouais.
Ah, t'as assuré.
Oui, mais parce qu'il n'y a pas énormément, il n'y a pas beaucoup de recettes. Il y en a 40, quoi.
Mais bon, moi, j'ai jamais compris quand ils ne mettent pas de photos. En fait, on n'a aucune preuve que ça marche et aucune envie de réaliser
c'est
la vidéo.
Surtout l'envie. Je trouve que dans les livres, il n'y a pas de photos sur les recettes. Enfin, les quelques recettes où il n'y a pas de photos, c'est vraiment les recettes oubliées du livre, quoi. Tu ne les fais jamais.
Non, tu les fais jamais.
En plus, c'est super dur de se figurer ce que c'est, quoi. T'as pas du tout.
Ouais, c'est vrai que t'as aucune idée. Et au moins, avec YouTube, on a clairement la personne qui le fait. On a beaucoup plus de détails que juste dans un texte. Finalement, le texte, il est écrit par une personne, avec sa vision sur les choses, ce que cette personne pense être important dans la recette. Mais peut-être que moi, je vais remarquer que, tu vois, la pâte, elle a l'air particulièrement souple à un moment et que lui, ça lui paraît évident. Du coup, ça me donne accès à beaucoup plus d'informations. Je trouve que juste une recette papier. Bon, l'idéal, c'est quand ça va de pair. Mais je trouve qu'on apprend mieux avec une vidéo YouTube qu'avec juste une recette papier. Et puis en plus, t'as le choix. C'est-à-dire que si je fais une recette, par exemple, sur les lasagnes, je cherche une recette sur les lasagnes, pardon, sur YouTube, et je vais avoir, je sais pas moi, tu vois, 100, 200, 300 entrées différentes en fonction du nombre de vues, en fonction des sources, en fonction des ratios de like, dislike. Je vais quand même pouvoir avoir un petit peu de légitimité dans tout ça.
Et du coup, ouais, donc la création de ta chaîne, elle arrive il y a combien de temps? C'est 5 ans?
Non, je crois que c'était il y a 3 ans et demi, 4 ans, je dirais.
Et elle arrive avec le concours de Jamie Oliver, c'est ça?
Ouais, en fait, elle arrive seule déjà.
Ok, ouais, c'est ce que vous avez tout demandé.
Très seul au début.
Au début, tu fais vraiment des vidéos.
Ouais, je fais des vidéos dans mon coin, dans mon appartement. Pourtant, c'est-à-dire que dès le début, j'ai quitté mon taf.
Ok, ah ouais.
Donc okay. J'étais seul la journée chez moi à faire des vidéos, à me demander comment est-ce que je vais faire des vidéos. En plus, j'avais une culture YouTube qui était vachement limitée à l'époque. Donc du coup, je suis un peu parti avec ma GoPro, je faisais des films, je me mettais pas en scène dans les films. J'étais parti sur faire des classiques français au début. Tu vois, je savais pas trop quoi faire honnêtement. Donc j'avais juste l'envie de faire et je me suis dit ça suffit, faut avancer. Et puis en plus, j'aime pas trop si tu veux bosser le soir sur quelque chose qui me plaît vraiment. J'aime que ce soit mon métier à temps plein. Donc du coup, je bossais la journée dessus. C'est la traversée du désert le début à peu près.
Combien de temps ?
Oh, je sais pas, c'était long, trop long. Et je suivais, si tu veux, pas mal de gens sur le web et puis hors du web aussi. J'avais découvert dans mon apprentissage de la cuisine, donc auparavant, surtout lorsque j'avais besoin de faire des plats réels et rapides le soir, j'avais découvert Jamie Oliver, donc ce chef anglais, notamment une série qui s'appelle 30 Minutes Meals, donc où en 30 minutes, il fait entrée, plat, dessert, ce qui est impossible, honnêtement. Depuis le temps que j'essaye ces recettes, c'est totalement impossible.
Ouais, même maintenant avec l'expérience, tu sais.
C'est impossible. Non, c'est 3 quarts d'heure, c'est le minimum. Et donc j'avais découvert ce mec et en fait j'avais vu qu'il avait aussi lancé sa chaîne YouTube. Il avait lancé une compétition dessus où il cherchait des nouveaux talents sur YouTube. En fait c'était un geste de sa part pour lancer sa chaîne. Ça lui permettait d'obtenir de l'exposition médiatique, puis de s'associer avec des gens qui étaient déjà sur la plateforme.
Oui, ouais, d'avoir aussi ouais, des talents, de récupérer des talents aussi.
Exactement. Et donc du coup, j'ai vu ce concours, je me suis dit que c'était une chance de fou, j'ai participé.
Il fallait faire une vidéo.
Exactement, il fallait faire une vidéo de 3 minutes, où tu faisais une recette, n'importe quelle recette, si je me rappelle bien. Il fallait juste utiliser du riz parce que c'était sponsorisé. Du coup, moi, j'ai pas gagné ce concours. C'est
la meuf argentine.
Félicitas, ouais. Une fille en Argentine qui a gagné, qui est super d'ailleurs, qui aujourd'hui est chef d'ailleurs. Donc ça a lancé sa carrière. Mais derrière, les gens de chez Jamie Oliver m'ont rappelé et m'ont dit voilà, le concours c'était juste pour faire un Kickstarter sur notre chaîne YouTube. Mais on est en train de monter un vrai réseau YouTube. Est-ce que tu veux en faire partie ? On sera à peu près une douzaine. Et j'ai dit jamais de la vie, je vous rappellerai jamais. Au revoir.
Je vous déteste.
Je vous déteste tous.
Vous n'avez rien à apporter. Non, t'as rejoint le FoodTube.
Exactement.
En fait, c'est ça, Jamie Oliver, il a eu l'intelligence de créer sa chaîne, de s'entourer tout de suite de plein de YouTubers, de créer un des, d'ailleurs, c'était un des premiers networks, en tout cas visibles, quoi. Et surtout, network thématique, network pour vous expliquer, c'est les réseaux de YouTubers, c'est un peu comme des labels ou des agences qui réunissent plein de YouTubers et qui les aident à avoir de la visibilité, trouver des partenariats et s'aider même techniquement. Et donc lui, c'est un des premiers networks visibles autour même d'une thématique commune, donc la bouffe. Et vous êtes combien ? Vous êtes ouais, 12 plus lui, un truc comme ça ?
On était 12, moi j'en fais plus partie aujourd'hui. Mais c'était un petit network sur YouTube. Les networks, normalement, ils ont des milliers de chaînes. Et donc, en gros, il n'y a pas forcément un intérêt gigantesque de rejoindre un network, surtout lorsqu'on a une petite chaîne, parce qu'on risque d'être noyé. Et là, du coup, la promesse était très intéressante. C'était, on démarre, est-ce que tu veux faire grandir l'aventure avec nous ?
Et puis toi aussi, ça te faisait grandir aussi.
Moi, c'était génial pour moi. Et puis même en termes d'audience, ça c'est sûr. C'est-à-dire que le jour où j'ai participé au concours, j'ai gagné 1000 abonnés. Donc si tu veux, j'ai multiplié mon audience par 7. C'était assez rigolo. Et puis derrière, surtout en termes de production derrière aussi, pour participer au concours, ben j'ai explosé tous les codes de production que j'avais avant. D'un coup, je me suis mis à animer moi-même la vidéo. Donc je me suis mis en scène. J'ai commencé à faire des gros plans, j'ai commencé à m'appliquer sur ce que je faisais un petit peu mieux. Non pas que je ne le faisais pas avant, mais si tu veux, le fait d'être dans une compétition et d'avoir des gens autour de moi qui produisaient des choses très intéressantes, ça m'a quand même énormément boosté à augmenter la qualité des vidéos.
Et au début, tu ne te mettais pas du tout en scène dans les vidéos ?
Non, au début, c'était juste mes mains.
Ok, et ça a été dur de passer ce cap ou sans le concours, tu l'aurais fait, tu penses ou...
Je ne sais pas ce que ma vie aurait été sans le concours. Mais en tout cas, je trouve que le chemin sur YouTube, il est très particulier. Si les gens regardent des chaînes sur YouTube, elles doivent savoir de quoi je parle. C'est-à-dire qu'on suit une personne sur YouTube. Et cette personne, elle évolue dans sa vie. Et elle évolue dans sa compréhension de son domaine. Elle évolue dans sa compréhension de YouTube aussi. Et donc, du coup, les vidéos, elles évoluent avec. Et le format des vidéos évolue avec. Je commence avec juste mes mains, quelque chose de très speed sur des recettes qui me touchent peu. Et je finis aujourd'hui avec moi mis en scène, dans des recettes qui me touchent énormément, qui sont pas forcément liées à la gastronomie française, mais tant pis, parce qu'elles sont beaucoup plus liées à ma personnalité qu'avant. Et sur des rythmes qui ralentissent, sur un rythme que je ralentis de plus en plus dans mes vidéos.
C'est quoi pour toi qui fait une bonne vidéo YouTube ?
Une bonne histoire ?
Ouais.
C'est ça, une bonne histoire.
Parce que c'est vrai que toi, moi j'ai l'impression en tout cas que maintenant tu fais moins de recettes sur YouTube. Mm-hmm. Enfin, même si évidemment tout tourne autour de la bouffe, mais il y a toujours, c'est plus, j'ai essayé de faire des ramen ou j'ai essayé de trouver pourquoi la mozzarella était comme ci. Donc à chaque fois, c'est des. Déjà, c'est presque plus une seule vidéo, mais c'est souvent une des séries de vidéos. Mm-hmm. Et comme tu dis, c'est une histoire. Ça, c'est un truc que t'as débloqué quand en fait
Quand est-ce que j'ai débloqué ça ? Dans. Attends, j'essaie de réfléchir exactement, mais je crois que j'ai débloqué ça avec une série que j'ai faite parce que j'adore les pizzas à la base. C'était il y a assez longtemps maintenant, c'est presque il y a 2 ans.
Ouais, 2-3 ans.
J'ai lancé
ouais.
une série sur les pizzas et sur comment est-ce que c'est possible de recréer une pizza napolitaine à la maison. Et c'est beaucoup plus complexe évidemment que juste oui. Tu vois ?
Oui, mais ça prend quand même 6 ou 7 vidéos.
C'est ça, exactement. Je crois qu'il y en a 13.
Ok, il y en a 13.
Et du coup, je me suis rendu compte que cette espèce de folie que j'ai un peu en moi, où j'adore creuser dans un sujet sans fin, si tu veux, ça plaisait à des gens. Et ça plaisait même plus que ce que je faisais d'habitude. Et je me suis dit, génial. En fait, j'ai le droit d'être encore plus moi. Et ça plaît plus à des gens. Donc, ça crée une addiction sur la série. Ça créait en tout cas un intérêt pour la série, si tu veux, une espèce de récurrence. Et ça m'autorisait à raconter beaucoup plus qu'une recette. L'histoire sur une recette, elle est limitée. Lorsque je vais voir, moi, une recette pour la faire, une recette de lasagne, notre recette de lasagne, tu vois, je veux qu'elle réussisse. Je veux pas qu'elle rate. Je veux voir une recette où le mec me montre les ingrédients, il fait la recette et je veux voir le résultat à la fin. Mais c'est linéaire. D'un point de vue de contenu, c'est pas intéressant d'un point de vue de contenu. C'est une super recette. Peut-être qu'elle aura des millions de vues parce qu'elle est géniale. Mais il y a pas de réussite en allant un peu trop loin cinématographique quand le mec il a fait la recette. Il y a rien, t'as pas pris les spectateurs avec toi, tu les as pas embarqués, tu leur as pas raconté quelque chose ou omis de raconter quelque chose. Tu vois, y a pas de suspense, même si le suspense il est limité dans mes vidéos, mais quand même, il y a pas de haut, pas de bas, et je trouve que finalement YouTube, ça peut être un endroit où on trouve des recettes, YouTube en premier lieu, c'est un endroit où on trouve des vidéos. Et une vidéo, c'est un film, pour moi. C'est un petit film. Et donc, si c'est un petit film, il doit respecter les règles des films, dans ce cas-là.
Et qu'est-ce qui fait une mauvaise vidéo YouTube, selon toi ? Est-ce qu'il y a des trucs... Lesquels tu considères que tu as raté comme vidéo ? Des vidéos que tu as enlevées, où tu te dis, ouais, ça, peut-être j'aurais pas dû le faire comme ci ou comme ça.
Il y en a plein où j'aurais bien aimé les faire différemment. Je trouve que les premiers trucs qui me gênent sur les vidéos, moi je consomme beaucoup de YouTube, donc je peux te dire d'un point de vue spectateur, ce qui me gêne le plus c'est la production déjà. Dans une vidéo, même si le contenu il est un peu light, ça peut passer, j'accrocherai pas forcément, mais si le son il est dégueulasse dans une vidéo, déjà c'est rédhibitoire. Si c'est trop sombre et que le son il est dégueulasse, on creusera même pas, on ira même pas voir le sujet parce que il y a un frein à l'entrée. Il y a un blocage, on peut même pas rentrer dans le contenu. Ensuite une histoire, mais on n'est pas obligé de faire des histoires compliquées. Moi, des fois, je me lance dans des histoires compliquées qui prennent plein d'épisodes, mais je vois des fois des vidéos assez courtes sur YouTube. L'histoire, elle est claire, elle est compréhensible, ça monte, on t'emmène quelque part, on te le délivre, ça marche très bien. Une mauvaise vidéo, finalement, ce serait une vidéo qui promet quelque chose et qui le donne pas.
Comment tu prépares tes vidéos ? Je parle de celles donc, que tu fais maintenant. Est-ce que tu les prépares beaucoup en amont ? Ou du coup, comme c'est le parcours que tu vas filmer, est-ce que finalement tu ne les filmes pas en cours de route, quoi ?
J'ai un mode de fonctionnement qui est calqué sur les gens qui font des documentaires. Je prépare tout ce que je peux préparer à l'avance. Je contacte les gens, je regarde des documentaires si jamais il y a des choses qui ont été filmées dans les lieux où je vais. J'essaie de m'imprégner. Et puis après, je laisse beaucoup de place au spontané. Mais ça m'a pris beaucoup de temps du coup pour arriver à faire ça. Surtout en anglais. Parce qu'avant, du coup, je scriptais au mot près. Et ça fait des vidéos, tu vois, qui sont plus figées. Mais c'était tout ce que je pouvais faire à l'époque, donc j'avais pas le choix. Maintenant, je peux avoir des directions, donc je planifie quand même. J'ai des documents qui me permettent, tu vois, d'avoir les étapes clés de mon contenu, savoir à peu près où je vais. Mais ça m'arrive souvent en cours de route d'effacer et de recommencer. Par exemple, lorsque j'étais à Naples récemment pour les pizzas, en fait, donc je fais une série en ce moment sur... j'ai une série qui dure depuis très longtemps sur la pizza napolitaine. Et là, j'ai été montré au meilleur pizzaiolo du monde mon niveau en pizza. Je me suis fait allumer, évidemment. Mais la vidéo, elle a changé en cours de route. C'est-à-dire que j'étais en Italie pour une série sur la mozzarella, donc pas pour cette série. Je me suis dit, c'est trop dommage, je suis à Naples, il faut que je fasse un épisode sur la pizza. Et soit j'allais faire un tour de Naples, et des meilleures pizzerias, si tu veux, de Naples, mais c'est un contenu qui a été vu et revu 1000 fois sur YouTube, et sur lequel, en plus, j'ai aucun apport personnel. Et puis là-bas, j'étais en train de mater des vidéos, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je vais faire, je vais leur faire un react to, parce que c'est vraiment un format YouTube, ça, tu vois, où lorsque tu montres une vidéo et tu filmes la réaction de la personne.
Et là, tu lui montes ta vidéo, tu lui fais la recette devant lui?
Non, je leur montrais mes vidéos.
Ouais.
En fait, tout s'est un peu emmêlé, et puis il y a des choses très marrantes qui se sont passées dans la vidéo, mais le fond, c'était ça. Je prenais mon téléphone, et je leur montrais mon niveau en pizza, et les mecs étaient horrifiés, et ils me mettaient une note sur 10. Et c'était super, parce que ça faisait un contenu vachement intéressant, et puis du coup, tous les abonnés qui avaient suivi ma série sur la pizza, ils m'ont vu me faire juger, tu veux, par ces chefs, et donc ils étaient un peu avec moi dans le jugement, d'une certaine manière. Dès que ça devient personnel, dès que c'est personnel plutôt, ça marche.
Merci Alexis de m'avoir accueilli dans ton studio. Retrouvez-le sur sa chaîne YouTube French Guy Cooking. Et maintenant, Pharrell Arrow, ancien blogueur, influenceur musique reconverti dans la nourriture. Aujourd'hui, il mène d'une main de maître la vertical food de Combini, Club Sandwich, et il est venu nous parler de comment il utilisait YouTube pour tout savoir de la cuisine.
Moi, j'avais, du coup, comme je faisais, du temps entre mes mains, la possibilité de faire des choses, des envies. Et en même temps, j'approchais de la trentaine et je me voyais pas retourner à l'école, en fait, pour apprendre à cuisiner. Et donc, du coup, tu sais, t'as ce truc, en plus, moi, tu t'inventes un peu une histoire familiale. C'est-à-dire que moi, ma mère, je suis désolé si elle écoute ce podcast, cuisine vraiment pas très bien, elle assaisonne pas les plats, elle a 2 recettes, enfin, pas très intéressant. Mais quand j'étais petit, j'allais vraiment manger chez mes grands-parents. Mon grand-père était, alors il était malade à l'époque, mais il était épicier, donc j'ai une genre de culture du produit par ça. Et j'ai pioché là-dedans un peu des trucs où je me suis dit, ah, j'ai quand même un héritage de cuisine à défendre. Et qui était autant le canard à l'orange du week-end que mon grand-père qui m'emmenait boire un Orangina. Pour moi, c'était le truc incroyable, tu vois. Donc, il y a un peu ce mélange de dire, je m'égare un peu, mais de dire, la cuisine c'est tout, quoi. C'est vraiment un panel incroyable. Et donc arrivé à cet âge-là où j'avais du temps, je me suis dit, est-ce que j'ouvre un resto, est-ce que je retourne à l'école. Et puis tu sais, tu te vois pas le monde de la cuisine et de l'apprentissage de la cuisine, il est très compliqué, quoi.
C'était avant la mode des reconversions professionnelles.
Ouais, c'était avant la mode des reconversions professionnelles, et c'est horrible. Mais moi, on me demande presque aujourd'hui d'être professeur alors que j'ai jamais été étudiant dans ces trucs-là. Et je pouvais pas, à 30 ans, en province, retourner avec des mecs sans doute très gentils, mais qui avaient 15 ans de moins que moi, et qui étaient là pour, parce qu'ils voulaient pas forcément faire la chose, mais parce qu'ils pouvaient pas forcément faire autre chose. Ce qui est dommage dans ces filières, parce que moi, je peux te dire que si à l'âge qu'ils avaient, j'avais pu me mettre dans ces trucs-là, je pense que j'aurais kiffé de fou,
ouais,
sauf
pareil.
Qu'on m'a dit, va à la fac. Je suis pas vraiment allé, mais tu vois le schéma. Et donc, du coup, j'allais pas aller couper des oignons à 8h du mat, quoi.
Donc, tu t'es dit, je vais m'apprendre tout seul, quoi.
Je vais apprendre tout seul. Et puis, il y avait ce truc où, pendant les années Fluo Kids et encore après, j'ai énormément voyagé, surtout aux États-Unis. Et ça m'a complètement baisé la tête par rapport à ma consommation de bouffe. Je suis vraiment tombé dingue de plein de produits, de la façon de manger et tout. Et du coup, YouTube, c'était la façon d'apprendre tout seul.
Ça c'est marrant, ce truc des États-Unis c'est les États-Unis et le monde qui t'a twisté la tête, parce que moi aussi ça a été encore un autre truc, c'est qu'en commun, c'est qu'en fait moi ça a été un voyage aux États-Unis où vraiment j'y allais sans rien attendre de la cuisine, et où en fait je me rappelle, j'appelais ma mère régulièrement et elle me disait, mais tu fais autre chose que manger, parce que tu me fais que me parler de trucs de bouffe. Et je lui disais, mais en fait je comprends pas ce qui se passe, mais tout est ouf. Et ça a été un des déclics aussi de me dire, ah ouais, en fait ça m'a décomplexé, comme YouTube aussi, de la bouffe. Toi, t'as un souvenir d'un plat, d'un truc qui t'a vraiment...
Tu sais, des trucs que j'aurais jamais... Quand j'étais petit, j'allais au restaurant, je prenais un steak frites, quoi. Et là, tu te retrouves à Tijuana, tu prends des tacos de tripe et tu dis « advienne que pourra ». Et puis, des potes pas mal. Je suis passé un peu de temps à Los Angeles, qui m'ont emmené vraiment dans des... Ouais, la bouffe mexicaine m'a beaucoup vraiment... influencé, dans le sens, c'est un coin de rue, c'est hyper facile, juste ils transforment les produits. Et de l'autre côté, j'ai passé un peu de temps en Scandinavie, où du coup tu vas dans des restaurants et tu te dis, putain, c'est du pain, incroyable. C'est genre, c'est tout, quoi. Et donc du coup, tu rentres dans YouTube. Je suis en couple avec quelqu'un depuis une dizaine d'années, et du coup, je cuisine pour elle tous les jours, quoi. Et donc, bah, quand tu cuisines pour quelqu'un tous les jours et que t'as envie de faire des trucs nouveaux tous les jours et que t'as envie, à ce moment-là, de te dire, est-ce que, vu que je vais pas cuisiner pour des gens dans un restaurant, il faut que j'éditorialise mon contenu, enfin, tu vois, je suis créateur de contenu, je suis blogueur, je suis pas du tout journaliste, mais je suis blogueur, en tout cas, du sens blogueur que moi j'ai de l'époque Fluo Kids, hein, pas de ce qu'on entend par blogueur aujourd'hui. J'ai pas de code promo pour du thé détox, mais du coup, tu veux cuisiner des choses nouvelles tout le temps, et puis commencer les vrais apprentissages derrière, c'est-à-dire apprendre à faire du pain, et ça, c'est un truc de dingue. Et puis, de fil en aiguille, tu te retrouves 3 ans après avec 15 kilos à maturer dans ton frigo de côte de bœuf, quoi.
C'est... ça, c'est vrai. Et du coup, ouais, donc comment YouTube... Est-ce que d'abord, t'as un truc sur Internet, puis YouTube? Enfin, tu vois, tu veux voir comment t'as chopé tes recettes, comment t'as appris, comment se passe ce processus d'apprentissage, d'auto-apprentissage?
Alors, le processus d'apprentissage, il passe vraiment par du binge-watching, clairement, tu vois. À commencer par les gros pontes, les Jamie Oliver, trucs comme ça. Tu trouves une chaîne, il y a 150 vidéos, et tu t'aperçois qu'en 3 semaines, t'as maté les 150 vidéos, et que t'en gardes 4 en te disant, tiens, ce truc-là, je vais le faire, quoi. Tu révolutionnes la façon dont tu fais les pâtes, tu commences à acheter différemment, tu commences à communiquer avec des gens qui sont un peu dans le même délire, puis tu commences à suivre des restaurateurs, tu commences à te dire, ah putain, c'est qui René Redzepi? J'en sais rien, tu vois. Et là, tu commences à te faire des tables, je suis arrivé vraiment dans la cuisine comme ça, par l'arrière, tard, et avec juste l'envie de découvrir des trucs, et puis à bout d'un moment, tu commences à manger des choses, et là, tu fais, waouh, ouais, c'est dingue. Et du coup, tu vas sur YouTube, et tu dis, bon, alors, ce truc que j'ai mangé, maintenant, je veux le refaire. Et du coup, au lieu de, que YouTube te fasse une curation, de dire, voilà, voilà les grosses chaînes de cuisine, là, tu tapes, comment faire fermenter, tel truc. Et là, tu commences à regarder 3-4 vidéos, dont un Indien qui s'est filmé avec un Nokia, un peu dégueu, mais bon, t'apprends un petit truc, et puis tu remontes, tu trouves des gars ou des nanas qui font vraiment des chaînes, enfin des tout petits trucs, et tu apprends des techniques à droite à gauche, et puis du coup, c'est toi après qui te fait ton...
Ah, c'est marrant, on a la même... moi, quand je teste une recette, je prends les 10 recettes qui tombent sur YouTube et sur des blogs et je regarde ce qu'il y a en commun et je me dis, ah putain, ok, d'accord, donc ça c'est le tronc commun de la recette. Voilà. Après, je vois qui fait quoi et je prends les meilleures idées. Enfin, tu vois, tu fais un espèce
c'est
de...
là que c'est là que YouTube c'est magique par rapport au livre, en fait.
Ouais.
Parce que le livre, effectivement, tu vas ouvrir les 3-4 bouquins de cuisine que t'as avec des influences différentes pour moi, je sais pas, on va prendre une recette simple, faire un gâteau, tu vois, un truc tout simple. On va prendre un truc, je cuisine pas de sucré, mais c'est le bon truc. Un gâteau au chocolat, tu vas ouvrir tes 5-6 bouquins de cuisine que t'as. Il y a une recette de gâteau au chocolat dans tous. Bah, tu choisis lequel, quoi. Tu ouais. regardes la photo d'un bouquin, je sais pas. Alors que si tu vois une mamie de 82 ans qui le fait avec un mélange pré-acheté, mais qui a dit, par contre, pour le chocolat, je le fais fondre de cette façon-là et tout. Qu'à côté, tu vas voir Cédric Grolet qui fait une masterclass et qui te dit, alors moi, telle farine, je la tamise à tel moment, je fais en 2 fois. Et que tu pondères cette connaissance-là par une 3e personne qui est en fait le marmiton de Tchécoslovaquie, enfin de Tchéquie ou de Slovaquie, qui fait son truc, et bah, YouTube, c'est là que c'est magique, quoi. C'est-à-dire que du coup, t'as presque une recette signature en ayant pioché dans 3-4 univers différents, quoi.
Ouais, parce que c'est vrai que c'est la force de YouTube, c'est que d'avoir autant des mamans, des grands-pères qui sont filmés par leur enfant, mais mal, enfin, tu vois, qui donnent des recettes sur des vidéos qui durent 25 minutes, et en même temps, t'as Redzepi, comme tu parlais, le chef de Noma, ou d'autres grands chefs qui partagent un truc, Michala qui a une chaîne YouTube, et tout ça est sur le même endroit. Et c'est vrai que quand tu disais par rapport au livre, où en fait le livre, t'as une vérité, en fait, c'est-à-dire que t'as un gâteau, parce que personne n'a, enfin peu de gens en tout cas ont 35-40 livres de dessert, donc t'as un gâteau et tu penses que ça se fait que comme ça. Moi je me rappelle que YouTube ça m'avait participé aussi au... Avant je pensais qu'il y avait une seule façon de faire une seule recette, en fait, et tu découvres en fait sur YouTube qu'il y a plein de façons de faire plein de recettes.
Ah oui, on va pas parler des carbonara, mais...
Non, je parlais plus des dosages de sucre et de farine. Et du coup ça m'a décomplexé aussi, parce que moi avant je pensais vraiment, je me disais putain, la cuisine, si t'as pas... Ah bah tu vois, genre j'ouvrais un livre, je voyais marqué genre une herbe au milieu de toute la liste d'ingrédients, je me disais, ah merde, je l'ai pas, bon, tant pis, je fais pas la recette, et je passais à autre chose, tu vois. Et en fait, YouTube, ça m'a montré que...
Enfin,
YouTube,
que tu peux t'adapter.
Tu peux tout faire, en fait. Mm-hmm. Juste, si t'as compris le tronc commun de la recette, le truc qui fait que en fait, tu vois, genre, je sais pas, que des lasagnes, c'est de la viande hachée, de la sauce tomate. Après, tu fais, à partir de là, tu peux faire ce que tu veux, tu peux rajouter de la mozza ou de la ricotta, tu peux rajouter telle ou telle herbe, et t'es assez libre. Toi, du coup, on va pas continuer sur YouTube, mais tu regardes quoi sur YouTube? Enfin, c'est quoi tes qu'est-ce que tu cherches?
Du coup, pour le boulot, évidemment, vu que j'écris beaucoup de choses sur des vidéos et des choses comme ça, bah je regarde un peu tout. J'évite les recettes vues de haut, hein. J'en fais parfois moi-même, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre, tu vois, un format qui m'a vraiment bien marqué récemment, c'est Bon Appétit, qu'on fait la découpe des animaux entiers. Okay. Hyper joli, qu'on a un truc où le mec, il a un demi-cochon, il t'explique comment découper un demi-cochon. Et il y a ce truc qui est bien pour nous, c'est que c'est filmé sur une belle table, qu'il n'y a pas du sang partout, qu'il y a de la belle lumière. Et alors, c'est impressionnant quand même. Mais du coup, tu apprends un truc fou, quoi.
C'est marrant parce que, donc, sur YouTube, tu regardes des recettes quand tu veux faire savoir-faire. Tu veux dire, tiens, je vais faire un brownie, je vais regarder une recette de brownie. Ouais. Mais quand tu regardes comment découper un cochon entier, tu le regardes pourquoi? Pour la beauté du truc, entre guillemets?
Après, j'aime bien me donner des défis, moi. J'ai ces trucs-là, tu vois, récemment. Alors, ça va à l'encontre de ce que je t'ai dit avant parce que ça vient d'une recette tasty. Mais je me suis tapé un week-end où je me suis motivé à faire une pièce montée.
Ok, oui, je me souviens.
Donc, à faire 170 choux à la crème et du caramel. Et c'est les petits défis que j'aime bien faire comme ça. Et j'aime bien, dans le même esprit, la transformation des produits simples. Là, je commence une série sur la charcuterie à faire chez soi, où j'avais fait du coup ce truc de faire maturer pendant un mois un train de côte de bœuf dans mon frigo. Sans YouTube, j'aurais jamais pu le faire. C'est-à-dire que j'ai appris à certains bouchers de mon quartier que tu pouvais le faire chez toi, quoi. Et la preuve par A plus B, c'est qu'à la fin, je l'ai mangé avec mes potes et que personne n'est tombé malade et que voilà, tu vois.
Tu vois, justement, tu dis que tu habites à Orléans.
Ouais.
Est-ce qu'il y a aussi ce truc de dire, bon, bah, de la viande maturée à Orléans, il n'y en a pas beaucoup? Parce qu'en fait, à Paris, c'est quand même assez centralisé. Enfin, en France, c'est assez centralisé, à Paris. Est-ce que tu te dis, bon, bah voilà, si je veux apprendre des trucs et moi aussi goûter à cette tendance de la viande maturée, ou goûter à, je sais pas, à tout un tas d'autres trucs, est-ce que j'ai pas intérêt aussi à essayer de le faire moi-même? Et là, YouTube arrive comme un prof qui est tout le temps là.
Complètement.
Où que tu sois dans le monde,
complètement,
tu peux t'apprendre à faire des trucs, quoi.
Ouais, et puis. Tu veux faire du vin chez toi, t'as des mecs qui te disent vas-y, t'achètes du raisin, tu fais du vin chez toi, t'achètes ça, tu prends une perceuse, tu fais ton truc. Et t'as ce truc de transmission qui est fou, c'est-à-dire qu'avant, c'est tes parents ou tes grands-parents qui t'apprenaient une recette. Aujourd'hui, tu vois, je reviens sur la viande et le barbecue, c'est la personne qui fait du barbecue depuis 30 ans qui t'apprend cette recette, quoi. Et sans réserve et sans passer par l'éditorial vraiment écrit de dire alors attends, mon brisket je le fais comment? Quand tu regardes un mec qui fait un brisket sur internet qui est je sais pas Franklin's ou un truc comme ça, tu le vois vraiment faire. Tu te dis il me dit pas il faut 100 grammes de paprika et 200 grammes de sel et je sais pas quoi. Il prend un truc, il dit tu mets du paprika, du sel, et comme ça pourrait être mon oncle qui m'apprend à faire la recette. Et du coup, moi, c'est ça que je cherche dans YouTube, qu'on me parle à moi, quoi.
Alors ça, c'est une partie de YouTube, mais j'imagine qu'il y en a un qui te parle un peu moins. C'est toute la partie la plus successful sur YouTube, qui est les rainbow cakes, les refaisons des burgers de chez McDo, qui est, tu vois, qui est peut-être celle que les gens consomment le plus.
Ouais.
Avec les trucs en vue d'en haut, les top shots. Et toi, t'en penses quoi de tout ça?
Bah écoute, moi, je suis rédacteur de Club Sandwich chez Combini, et du coup, c'est des choses que moi, je consomme pas personnellement, mais je sais que c'est ça le haut de l'affiche de YouTube, quoi. Mais c'est l'équivalent dans les autres domaines, je pense. C'est-à-dire que tu as vraiment le mainstream en haut, et que les rainbow cakes, personne ne trouve ça bon, mais les gens, ils veulent regarder ça. Refaire un burger d'une franchise, ça parle plus à des mecs ou à des nanas que de regarder un gars qui pendant 30 minutes coupe un cochon. Je le sais que quand je fais une news sur la vidéo du mec qui coupe un cochon pendant une demi-heure, je vais pas faire la même audience que quand je poste ce matin Alvin Kellan et le mec de Binging with Babish qu'on fait un mélange entre le burger de In-N-Out et le burger de Shake Shack et qu'ils l'ont refait chez eux. J'adore Alvin Kellan, donc moi j'ai mon entrée là-dedans. Mais je sais que ça va fonctionner parce que
c'est un burger, ouais.
Un Frankenstein de deux franchises qui font rêver les Français, quoi.
Le thème de cette émission, c'est filmer la cuisine. Et je trouve que sur YouTube, dans la bouffe, t'as vraiment une diversité, bon, on a dit de genres, de recettes, etc., mais aussi de manières de filmer.
C'est très, très dur de filmer la bouffe.
Déjà. Ouais. Mais je trouve que du coup, t'as vraiment, donc les top shots, on l'a dit, les trucs vus d'en haut. T'as aussi les, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Moma Chérie, une maman noire anglaise qui a fait, tu vois, qui est filmée par sa fille juste avec, en plan séquence avec son téléphone. T'as des gens, enfin, tu vois, Binging with Babish, par exemple.
Binging with Babish, le plan qu'il a fait de se couper la tête et de recuisiner devant les gens, il a réussi à répondre à la question de tous les mecs qui, chez Intermarché et chez je ne sais pas quelle autre franchise, de dire dans les briefs, on fait un top shot. Et là, ils disent, non, il y a un mec, il a 2 millions, il a chopé 2 millions de followers en 6 mois. Il s'appelle Binging with Babish et il s'est filmé avec un angle descendant, quoi. Et quand tu le vois cuisiner, tu comprends tout. Et t'as pas ce truc de je regarde d'en haut et je mets une musique libre de droit. Et il a ramené la voix dans la recette. Et du coup, il a réussi à filmer la nourriture différemment. Moi, c'est un casse-tête pour moi, hein, parce que sur Club Sandwich, on fait des formats food. On fait peu de recettes. Si tu veux, les recettes, on les fait plutôt en éditorial qu'en vidéo. Mais c'est très dur de filmer une recette en vidéo. Et tu t'aperçois en plus, quand t'es vraiment dans le truc, que pour que ce soit quelque chose que tu puisses reproduire derrière, c'est encore plus dur. Et du coup, tu t'aperçois un peu aussi du mensonge du Top Shot, qui est un petit peu finalement le mensonge aussi de la recette dans un livre, de beaucoup de bouquins, quoi. Et qui du coup renvoie vers la façon de diguer différemment pour que la transmission de recettes se fasse idéalement, quoi. Parce que quand tu fais un Top Shot avec du fromage qui coule, ben t'en mets pas autant dans la recette du fromage. Tu le réchauffes, c'est froid, c'est tiède, enfin c'est, tu vois. Et du coup, filmer la bouffe, moi je sais que c'est un casse-tête au quotidien.
Tiens, mais parlons des Top Shots justement pour finir. C'est parce que on parle de filmer sur YouTube. On peut opposer à ça filmer sur Facebook la bouffe, qui est ce truc de tous les trucs qu'on voit chef club en tête, qui est les trucs vus d'en haut avec un mélange d'avocat, de bacon et de fromage sous toutes ses formes.
Moi, chef club et les autres, je les vois comme des formats, comme si tu matais un peu, enfin, tu vois, c'est foot porn, hein, c'est ça, mais comme si tu matais du porno. T'as pas envie de faire le truc, mais ça te titille un truc au fond du cerveau. Ouais. Alors, nous, on cuisine, donc on trouve que c'est une aberration et ces trucs-là, mais moi, j'ai une veille sur ces trucs. Je regarde vraiment tout.
Oui, pour le taf, t'es obligé.
Et, ouais, et puis même par tu vois,
cynisme. Ironie.
Par ironie. Et quand tu vois les mecs faire des chaînes de cocktails où le premier ingrédient, c'est toujours des Haribo, putain, ça va à l'encontre de tout ce qu'on veut faire. Enfin.
Tu veux pas nous dire quand même 3 chaînes YouTube que t'aimes bien en bouffe?
Putain, je les ai pas, tu sais quoi, je vais pas les avoir en tête.
Tu veux en dire 3 et puis tu vas rentrer chez toi, tu vas faire.
Mais ouais, complètement. Donc j'ai pas le truc. Je vais citer 2 exemples qui m'ont, mais qui sont pas du coup des chaînes YouTube, mais qui ont lien à YouTube et tout, qui moi m'ont vraiment décomplexé. Un exemple hier et un exemple il y a quelques mois, c'est dans le bouquin de Guillaume Sanchez, écrit par Henri, enfin,
Humain.
Entretien avec Henri Michel, Humain, chez.
On n'est pas une radio professionnelle, voilà. On est pas obligé de donner les maisons d'édition.
Mais lisez-le, il est vraiment très bon. Il explique que 3 jours avant l'ouverture de son resto, il a appris à lever des filets sur YouTube. Je trouve ça génial. Et hier, du coup, il y a Ugly Delicious, la série de
Netflix
de David Chang qui est sortie. Et t'as pareil, il parle du coup de la mozzarella et il va voir un mec qui s'appelle Christian Francesco Puglisi et qui est à Copenhague et qui dit bah moi la mozza je l'importe pas parce que je veux un produit frais. Donc si elle a 3 jours, elle est moins bonne. Donc je la fais ici. Et du coup, David Chang lui dit bah t'as appris comment? Il fait bah YouTube. Et il dit, j'ai fait des mozzas dégueulasses, j'ai fait des mozzas moyennes, et puis j'ai pondéré tout ça, et j'ai fait une mozza mortelle, quoi. Et donc voilà, c'est ça le...
T'as l'impression qu'il y a est-ce que ça, c'est un truc, tu penses qu'il... Opposons ça à l'apprentissage traditionnel, tu penses qu'il y a un manque à l'apprentissage de YouTube qui viendrait?
Ah.
Parce que moi, j'ai l'impression que j'en ai... Enfin, je pense que, par exemple, tu vois, toi et moi, je pense qu'on a peut-être le même niveau en cuisine, en tout cas les mêmes intérêts, on n'est pas chef,
non.
On est... Cuistot, cordon bleu.
On est amateur
éclairé. Mais tu sais, moi par exemple, je sais que je suis pas capable de faire une découpe régulière, tu vois.
Ouais, mais ça en fait, je pense que.
On s'en fiche.
YouTube, bah déjà, on s'en fiche. Et puis en fait, finalement, ça finit par venir. Mais je pense que les gars qui sont en apprentissage, bah le premier truc qu'on leur fait, c'est pas de créer une recette, c'est d'être un pan de la recette. Et donc, si t'es le pan du mec qui est à faire des petites fleurs de chou-fleur au bout du plan de travail, bah tu fais ça pendant 1000 heures.
Ouais.
Enfin, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que moi, la vidéo sur la découpe du cochon, si je la regarde 1000 fois, je saurais découper un cochon. Pour l'instant, je la regarde qu'une ou deux fois pour me dire, putain, si un jour j'ai un demi-cochon, j'essaierai, quoi. Et je peux te dire, le train de côte de bœuf que j'avais dans mon frigo, qui faisait 15 kilos, le jour de la découpe, j'ai passé vraiment une journée à mater tout pour découper, et ben, je l'ai pas découpé comme un professionnel, le truc, tu vois. J'étais là avec ma petite scie et mon couteau, et du coup, c'est là que la limite, elle est. C'est que l'apprentissage, le vrai apprentissage, ben, au lieu de découper une fois un train de côte de bœuf, tu le fais 150 fois, pendant 2 mois, quoi.
Merci à Farel et merci à Alexis. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes animée par Guillaume Malissen, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée et mixée par Thibaut Delage au studio L'Arrière-Boutique, production et coordination Laura Cuissard. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et pourquoi pas nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. À la semaine prochaine !